L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
Tous les matins, il marche dans les rues désertes de la ville. Malgré qu'il n'ait que 5 heures, la chaleur est déjà là. Une chaleur étouffante, sans air. Il marche d'un bon pas dans les rues désertes et sombres. Il fait tous les matins le même parcours automatiquement, sans voir où il va, et marche d'un bon pas. Il voit à quelques mètres de lui un jeune garçon, mince, habillé en jean et un t-shirt blanc, traverser en titubant la rue. Un besoin le prend de suivre ce jeune homme. Il traverse aussi la rue et va vers le jeune homme. Il voit qu'il marche en se tenant les deux mains sur les façades des immeubles, s'approche vers lui et entend le jeune homme compter. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il compte tout en marchant, en titubant et se maintenant contre la paroi des murs. Avec ses deux mains, l'homme s'approche de lui et lui demande « Vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose ?» Le jeune garçon se retourne. L'homme voit qu'il a la tête allongée, cheveux courts qui ondulent. Son teint est très clair. Yeux bleus et des paupières qui ont l'air d'une personne qui va s'endormir. Il semble beaucoup plus jeune que l'homme le croyait. Il doit avoir dans les 15 ans. Le jeune garçon lui dit « Non, ça va, ça va. » Et il continue à marcher. Marche en titubant et en continuant à compter. Pour voir, l'homme lui dit 200, 300, 400. Le jeune garçon continue, comme lui, à compter à partir de 400. L'homme le suit. Il est ému par ce jeune homme. Il n'est plus rien. Et puis, il est à l'heure où tout est possible, où tout semble être en dehors de tout, l'heure où l'on n'est rien. Tout d'un coup, il voit l'enfant disparaître dans un renfoncement et un bruit. Il va voir. Le jeune homme est tombé, la tête renversée. Il se penche vers lui, il soulève la tête. Le jeune homme lui dit « Ça va, ça va ?» L'homme lui demande « Vous en êtes sûr ?» Le jeune garçon lui dit « Oui, ça va, ça va. » L'homme lui dit « Attendez, je vais vous aider à vous relever. » L'homme lui touche la tête et lui demande « Vous n'avez pas mal ?» Le jeune garçon lui dit « Non, ça va, ça va. » L'homme l'aide à se relever, lui demande « Vous allez vraiment bien ?» Le jeune garçon lui dit « Oui, ça va, merci. » Le jeune homme fait un pas. Vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, merci. L'homme est hypnotisé et ne peut s'empêcher de lui caresser le dos. Alors le garçon de ses mains se plaque contre lui et se maintient très fortement à son épaule. Oui, il se plaque très fortement contre l'homme qui ne comprend pas et sent son corps et sa chaleur. L'homme semble défaillir. Il lui semble que le jeune homme fait un mouvement avec le bas de ses reins comme s'il voulait le prendre sexuellement. Il s'approche très fortement contre lui. Il a le visage légèrement de côté, tout contre celui de l'homme. Alors l'homme, pris de vertige, se met avec ses deux mains à lui caresser le dos. Il sent ses formes juvéniles et même douces. En même temps, il a contre ses lèvres sa joue. Il se met à lui donner des baisers. Il va vers ses lèvres. En s'approchant de ses lèvres, il voit les yeux mi-clos du jeune garçon qui sont légèrement ouverts et montrent de magnifiques petites dents blanches. Il veut lui donner un baiser sur les lèvres, mais le jeune se retire pour lui donner sa joue. L'homme, en le caressant et lui donnant des baisers, a de plus en plus chaud. Il lui semble que le jeune garçon lui aussi continue à se serrer très fortement contre lui et à continuer son geste. L'homme, pris de vertige, se dégage légèrement pour lui défaire sa ceinture et lui baisser son pantalon. Il a des difficultés à le faire parce que la ceinture est bien serrée. Enfin, il y arrive et descend la fermeture éclair du pantalon. Malheureusement, le garçon se dégage complètement et va un peu plus loin. Il revient vers l'homme et lui dit « Tu as envie ?» L'homme lui dit penaud « Oui, je veux te sucer. » Le jeune lui dit en faisant le nom de la tête « Non !» L'homme se penche la main et met sa main dans la braguette du pantalon pour lui toucher son sexe. En se dégageant tout de suite, le jeune garçon pousse un cri de plaisir. L'homme reste sans bouger et le jeune homme se dégage. Il continue à faire l'angle de la tête. Puis, il prend la main de l'homme, comme le ferait un petit enfant, et même un nouveau-né, lorsque le petit enfant ou le nouveau-né prend la main d'un adulte. Il le mène plus loin, dans un lieu où l'on garde des voitures. L'homme se laisse guider, surpris. Le jeune homme essaye d'ouvrir la portière d'une camionnette, blanche. L'homme lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que c'est une camionnette ?» Il lui montre que c'est une camionnette. Le jeune garçon regarde les numéros d'immatriculation et s'éloigne en tenant la main de l'homme. Puis, il se retourne, fait face à l'homme. ne tient plus sa main. Les chaussures du jeune homme se sont mises sur les chaussures de l'homme. Il voit que le garçon a un air mauvais. D'un geste brusque, il dégage ses pieds. Puis le jeune homme va plus loin, dans un angle du mur. Là, le jeune homme se met de dos, la tête baissée et les mains sur son visage. Légèrement penché, une de ses fesses tournée de côté. Il ne bouge pas. Alors l'homme, toujours pris de vertige et comme drogué par la douceur et les formes du corps qu'il a eu contre lui, tout à l'heure, se met à lui caresser les fesses, ou plutôt une de ses fesses. L'autre ne bouge pas. Il est de plus en plus enivré par cette douceur. En même temps qu'il caresse la fesse, il soulève le t-shirt du jeune et lui caresse le bas du dos. Puis, lui caresse aussi le ventre qu'il a doux. Les minutes passent ainsi. Il a peur que le jeune homme se mette en colère, mais il ne bouge pas. Alors il continue. Il aimerait que cela durât toujours. Puis le jeune homme se retourne légèrement pour montrer le dos de son corps en entier. L'homme a eu peur et croyait qu'il s'était retourné pour se dégager violemment. Mais non. Il lui caresse encore un peu le dos, les fesses. Puis le jeune homme se retourne. L'homme le laisse. Le jeune garçon fait quelques pas. L'homme le laisse passer. Il marche en titubant, sans savoir où il va. Puis il quitte son t-shirt et s'apprête à quitter son pantalon. L'homme surpris, ne sachant que faire, car il a peur que l'autre se déshabille dans un endroit où il risque d'être vu, lui dit « Non, pas ici. Viens, plus loin. » Le jeune garçon lui prend la main comme la dernière fois. L'homme lui caresse la main. Le jeune garçon regarde la main qu'on lui caresse. L'homme veut le guider dans un endroit sombre et tranquille. Mais le jeune garçon se dégage, va près d'une voiture, comme un somnambule, remet son t-shirt et range son pantalon. Retourne et tourne autour d'une voiture. Essaye de rentrer dans la voiture. Paniqué, l'homme lui dit « Non, surtout, ne fais pas ça !» Le jeune homme se met contre la voiture et lui dit « Pourquoi est-ce que tu veux pas ? Pourquoi est-ce que tu veux jamais ?» Ce que je veux faire. Puis se met le dos contre la voiture et ne bouge pas. Alors l'homme pense que c'est comme la dernière fois. Se penche pour lui toucher les fesses. Le jeune garçon avec ses deux pieds, sans se retourner, le chasse. Puis au bout d'un moment, il se retourne et de sa main lui donne un coup qui fait tomber ses lunettes. Puis le jeune se retourne, se plaque contre la voiture et ne bouge pas. L'homme se met à crier « Pourquoi tu fais ça ? Et mes lunettes ? Tu n'aurais pas dû faire ça !» Et l'homme se penche pour regarder où sont tombées ses lunettes. Ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de lumière et qu'il y a plein de feuilles mortes sur le sol. Il cherche et mais un long moment. Il voit que le jeune ne bouge toujours pas. Il lui dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Le jeune ne répond pas. L'homme a peur pour ses lunettes, qu'elles soient cassées ou qu'il ne les retrouve pas. Il cherche. En tendant les mains sur le sol et a très peur. Parce que sans ses lunettes, il n'y voit rien. Et puis ce sont des lunettes qui coûtent très cher. Enfin, il les retrouve. Elles ne sont pas cassées. Il a eu de la chance. Se relève et met ses lunettes. Le jeune est toujours là, dans la même position, le dos contre sa voiture. Il ressemble à un enfant qui vient de faire une grosse bêtise et qui attend d'être puni. L'homme se dit qu'il doit s'en aller. Oui, qu'il doit s'en aller. Car il a peur que le jeune se mette en colère. Alors il s'éloigne. Il s'éloigne du jeune homme. Et juste au moment où il s'éloigne, il voit arriver une camionnette qui va à l'emplacement des voitures où il y a le jeune homme. Il se dit que de toute façon, il était obligé de s'en aller. Alors il s'en va. Oui, il s'en va. Il s'en va avec une sensation étrange où le plaisir qu'il a eu est plus fort que les ennuis qu'il a eus. Il quitte la rue et se met à marcher d'un bon pas. Ses pensées vont vers cette rencontre et désirent de revoir le jeune homme pour ressentir ce qu'il a ressenti. La pièce est un bureau, grande pièce carrée et très claire, avec des meubles modernes en verre et pierre. Est assis à son bureau un homme, grand, fort, l'air triste, cheveux châtains, yeux bleus. Il porte un costume marine. On a frappé à la porte. Entrez! Est entrée une femme forte, cheveux blonds, pas belle, regard énergique, cheveux châtains. Elle porte une blouse blanche et a à la main un clocheur rouge. S'approche du bureau et dit « Bonjour docteur !» Il lui dit « Bonjour Elisabeth !» Elle lui demande « Alors, vous avez fait, comme tous les matins, une petite promenade ? » Il lui répond, « Oui, et ça fait du bien. Vous devriez en faire autant. » Elle lui dit, « Oh, moi, vous savez, le sport. » Il lui demande, « Alors, quoi de nouveau ?» Elle lui répond, « Comme toujours, la même chose. Beaucoup de patients qui sont venus avec de la fièvre et nous avons eu 3 décès cette nuit. » Il lui dit, « Si le temps ne change pas, ça va continuer. » Elle lui dit, « Oui, hélas. Et ce sont surtout des gens qui ont des ennuis,
qui décèdent, les pauvres. La mairie a encore ouvert un gymnase pour mettre des lits. Pour le moment, la population reste calme et semble ne pas effrayer. Le docteur lui dit.
C'est parce que il fait trop chaud. Ils ne peuvent réagir. Bon, allons voir nos malades.
Il se lève. Et suit l'infirmière.
Nous sommes dans la clinique du docteur Rambert Jacques qui se trouve en face du parc Monceau. La clinique a été récemment construite. C'est un grand édifice très moderne qui a 500 lits. Les malades ont tous des chambres individuelles de grand confort et ce sont des personnes de niveau élevé car les soins sont très chers. Elisabeth Thévenet et son infirmière chef. C'est une femme qui vit seule, sans famille, toute sa vie c'est son travail. Elle est dévouée corps et âme à son patron. De caractère très énergique, elle s'en prend facilement aux malades, mais sait prendre des décisions extrêmes. Nous sommes en août. Et durant tout l'été, la clinique n'a des remplis, comme tous les services de soins de la ville. Les gens se sentent mal et ont de la fièvre, surtout les personnes âgées et les enfants. Il y a une très grande sécheresse, la ville rationne l'eau, les fontaines sont fermées, les espaces verts ne sont plus arrosés et il est interdit de laver les voitures. Il faut aussi éviter de se doucher tous les jours. Cette chaleur sans air, de plomb, sous un ciel bord gris. Il y a très peu de passants dans les rues, presque pas de voitures. Et l'on entend circuler souvent des ambulances. Des ambulances et services de santé. Pour la plupart, les gens vivent au ralenti. Le fleuve qui traverse la ville, son volume d'eau a diminué des trois quarts. Les piscines sont fermées, les terrasses des cafés sont désertées. Car il fait trop chaud. Les gens vont se rafraîchir en buvant et mangeant des glaces à l'intérieur des cafés. L'électricité a aussi été rationnée.
Les rues sont moins éclairées et les restaurants, cafés, etc. doivent fermer avant 22 heures. Malgré de nombreux décès de personnes âgées, de jeunes enfants et aussi de SDF, la population reste calme. On se dit que ce sera bientôt l'automne et la fraîcheur reviendra. Les ambulances circulent sans arrêt dans la ville pour aller chercher les malades. Et les cadavres qui se trouvent sur les trottoirs ou dans les appartements. Pour éviter les épidémies, on amène les cadavres dans les fours d'incinération et ceci rapidement. Le docteur Amber habite avenue Foch, dans un immeuble cossu du 19e siècle, de 5 étages. Son appartement est meublé Louis XV. C'est l'appartement où habitaient ses parents. Deux jours plus tard, dans son salon, en prenant son petit déjeuner, il lit le journal. Là, il voit un article sur une personne, une femme de 50 ans, qui a été sauvagement assassinée d'un coup d'extincteur dans un parking tôt le matin. Elle a été retrouvée à terre dans une mare de sang. La tête fracassée. La personne a dû se défendre pour qu'on ne vole pas sa voiture. Cet article trouble, malgré lui, Jacques Rambert. Quelque chose lui dit que celui qui a fait ça est peut-être le jeune garçon qu'il a rencontré. Et ce n'est pas très loin de l'endroit où il l'a laissé. Et puis le jeune semblait attiré par les voitures. Une sensation étrange s'empare de lui. Au lieu d'être dégoûté, horrifié par ce qu'il vient de lire et par la pensée que le jeune garçon qu'il a rencontré pouvait être coupable de ce meurtre horrible, bien au contraire, il se sent encore plus attiré par le jeune homme. Pourquoi cette attirance vers une personne qui a fait un acte aussi horrible? Pourquoi avoir encore plus envie de lui? Suis-je pervers? Pourquoi? Parce que je crois qu'il a fait cette chose. Cela me donne-t-il encore plus envie de lui? Pourquoi est-ce que le mal excite-t-il le désir? J'ai beau penser que mon attirance est une chose horrible, je ne peux m'empêcher de le désirer encore plus, malgré que ce qu'il a fait. Alors, tous les matins, il retourne dans la rue et essaye de voir s'il ne voit pas le jeune garçon. Non, il ne le voit pas. Il en est très attristé. Alors, il s'imagine le retrouvail et le désir qu'il a lui donne encore plus de besoin d'affection pour lui à cause de ce qu'il a fait. Chaque matin, il est triste de ne pas le revoir. C'est dur aussi pour lui de travailler dans cette chaleur et heureusement qu'il a Elisabeth près de lui. Elle semble ne pas souffrir de la chaleur. Il y a toujours autant de personnes qui ont la fièvre et des ennuis respiratoires. Pour certains qui ont les moyens, on les envoie à la campagne dans les maisons médicalisées. Rambert dit à Elisabeth,
moi aussi j'aimerais bien pouvoir aller à la campagne.
Mais réfléchit un peu. Elle lui dit,
à la campagne, il fait bien plus frais. Vous savez, docteur, et puis nous avons besoin de vous.
Il lui dit, la météo dit que le temps va changer.
Elle lui dit,
il serait temps, parce que nous sommes débordés, n'avons plus de lit pour des cas autres que la fièvre.
Mais, pour l'instant, on ne voit pas le temps changer. Il fait toujours aussi chaud et lourd. Le mois de septembre est là, le travail reprend. Malheureusement, il reprend au ralenti par manque d'eau et d'électricité. Et puis aussi, les personnes sont trop fatiguées par la chaleur pour pouvoir travailler à plein rendement. Les écoles vont reprendre, mais juste pour le matin. Il est impossible de faire travailler les enfants dans un climat pareil. Les plus touchés, les SDF, qui ne trouvent même plus d'endroit pour se désaltérer et se rafraîchir un peu. Parce que les fontaines et lieux d'eau publique sont fermés. Ils ne savent où se mettre à l'abri de la chaleur car la plupart des allées sont fermées. La chaleur coupe l'appétit et cela aggrave leur santé. Tous ont de la fièvre et morts sur le trottoir. Certains qui réussissent à avoir un peu d'argent s'achètent des bouteilles de vin et comme il fait très chaud, en boivent plus que d'habitude, ce qui fait avec la chaleur que ça les enivre encore plus. Comme ils n'ont pas de lieu d'attache, ils sont toujours avec leurs habits d'hiver et traînent avec des sacs où il y a des couvertures et quelques biens. Ce qui fait qu'avec tout ce fatras, ils ont encore plus chaud. Ils devraient se déshabiller et laisser leurs affaires, mais pour eux, ce sont des biens précieux et se disent que lorsque l'hiver sera là, ils seront bien contents d'avoir des vêtements chauds et des couvertures. Les oiseaux ont disparu de la ville, les chats aussi, et les chiens. Les chats vont trouver la fraîcheur dans les corbes, les oiseaux sont peut-être morts de chaleur, les chiens marchent tristement, en laisse la langue pendante, très maigre. Mais on en voit de moins en moins de chiens. Malgré la chaleur, des enfants continuent à jouer dans les rues, à se courir après et à rire. Ils ne sentent pas la chaleur ou leur besoin de jouer est plus fort qu'elle. Mais malgré tout, il y a souvent des jeunes enfants qui tombent malades, des déshydratations, des nouveau-nés, des maladies de la peau, des bronches, des yeux. Pour les personnes âgées, c'est la même chose. Mais ce qui est grave chez elles, c'est qu'elles ne rendent pas compte qu'elles ont besoin de boire et refusent de boire. Même certaines personnes âgées ne ressentent plus la chaleur et s'habillent comme en plein hiver. Les rues s'animent tôt le matin et le soir. Les gens sont moroses, tristes, maigres, le regard fiévreux. Ils se sentent incapables de protester du manque d'efficacité de la mairie et des services sanitaires pour les maladies causées par la chaleur et les décès. Quelle que soit la classe sociale, tout le monde est au même niveau et à quelque chose près. Parce que ceux qui ont les moyens, ils vont chercher un peu plus de fraîcheur en dehors de la ville. Et chez eux, ils peuvent se permettre, c'est d'avoir un ou des appareils climatiques. Le ravitaillement de l'alimentation pose problème aussi. Vu la sécheresse, il y a diminution de production de fruits et légumes et même de viande. Et ceci par manque d'eau. Les fruits, les légumes brûlent et les animaux souffrent car ils ont des difficultés à trouver à s'alimenter parce que les champs sont brûlés et il y a peu d'eau. Ce qui fait que le peu de fruits et légumes et viande qui arrivent en ville sont vendus à un prix très élevé. Ainsi, c'est dû par le transport des aliments car il fait très chaud et on diminue la circulation des camions. Malgré tout ça, ça ne vient pas l'idée chez les concitoyens de se dire qu'ils sont dans un état de crise. Parce que tout le monde pense que le temps va changer avec la fin de l'été. Comme la plupart des décès sont des personnes âgées, des SDF et des personnes très fragiles, pour tout le monde, cela ne porte pas à conséquence. Les personnes qui sont mortes, c'est un peu normal parce que c'était des personnes fragiles. Les corps sont rapidement incinérés et l'on porte les malades à l'hôpital très vite, ce qui fait que les gens ne s'en rendent pas compte. Oui, des personnes qui sont malades ou qui décèdent sont très rapidement amenées et sorties de leur famille. Et il y a aussi beaucoup de personnes seules qui meurent ou qui sont malades et la personne ne sait, sauf l'employeur qui s'informe si c'est personnel. Si ces personnes ont un emploi, bien entendu. Autrement, toutes les autres personnes, seules, les SDF par exemple, personne ne fait attention qu'ils aient décédé ou qu'ils soient malades.
ouvre les yeux, voit trouble, se sent là. Il a mal au bras droit. Tout est lumineux autour de lui. Une porte s'est ouverte. En face de lui, une ombre sombre apparaît et s'avance. C'est une femme, grande, maigre, cheveux gris en chignon, l'air dur. Elle doit avoir dans les 75 ans et porte une robe simple noire. Elle se penche vers lui et lui demande « Comment vas-tu ?» Il lui dit faiblement « Je me sens là, fatigué. » Elle lui dit « Tu n'as pas été bien cette nuit, alors j'étais te faire faire une piqûre pour te détendre. » Il lui demande « Qu'est-ce que j'ai eu ?» Elle lui répond « Juste un peu de fatigue. » Il lui dit « J'ai mal au bras. » Elle lui dit « Ce n'est rien, mon chéri, et ça passera. Repose-toi maintenant. Tout à l'heure, je t'apporterai ton petit déjeuner. Tu as faim ?» Il lui répond « Je ne sais pas. » Elle se penche pour l'embrasser et sort de la pièce. Elle est rentrée dans son bureau, qui est une vaste pièce, avec grande baie vitrée, qui donne sur un parc. Les meubles sont Louis XV. Le bureau se trouve face à la fenêtre. S'assoit à son bureau. Devant le bureau se trouve un homme, debout. Il est habillé en chauffeur. Il est grand, fort, cheveux gris, avec sa casquette à la main. Elle lui dit « Je vous remercie de me l'avoir ramené. » Il lui dit « Ce n'est rien, madame. » Elle lui demande « Mais comment as-tu pu faire pour s'enfuir ?» Il lui répond « Nous ne savons pas, madame. Mais lorsque nous en sommes aperçus, tout de suite, nous avons fait des recherches. Ça n'a pas été facile. » Elle lui demande « Comment l'avez-vous retrouvé ?» Il lui répond « Par hasard, en sillonnant les rues de la ville. J'ai vu qu'il sortait d'un garage, d'un immeuble. Il était taché de sang. Alors je l'ai pris par la main et fait rentrer dans la voiture. Voilà. » Elle lui demande « Il n'a pas résisté ?» Il lui dit « Non, madame, vous le connaissez, il se laisse guider facilement après. » Elle lui dit « Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et je vais faire une enquête pour savoir comment il a fait pour sortir d'ici. Vous pouvez disposer. » « Bien, madame. » Et le chauffeur la quitte. Elle reste seule et pensive. C'est madame Jeanne Forvigny, principale actionnaire des entreprises Forvigny de produits de beauté. Elle habite à Neuilly-sur-Seine, dans une grande maison du 19e siècle de 3 étages au fond d'un grand parc. Elle est seule avec son petit-fils. Le téléphone sonne.
Elle a décroché. Oui, soupire Eddie. Bien, amenez-le au petit salon. Je vais le recevoir.
Et elle sort du bureau.
Pour aller au petit salon, qui se trouve deux pièces plus loin. C'est une grande pièce avec deux baies vitrées claires, meublées Louis XV. S'assoit dans un fauteuil et attend.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.